بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Mes chers frères en islam, dans ces derniers versets de At-Takwir, Allah Azza wa Jal rappelle que le Coran, c'est un rappel pour l'univers. Et on avait expliqué la dernière fois la rahmat d'Allah Azza wa Jal à travers la révélation du Coran. Comment est-ce que cette umma, cette communauté a été honorée par Allah Rabbul Izzah quand on a reçu le meilleur des livres, le meilleur des livres, le seul livre qui a reçu la garantie de protection de la part d'Allah Azza wa Jal. Mais ça, c'est quelque chose d'énorme, ça. Est-ce qu'on se rend compte, salam Ibrahim, est-ce qu'on se rend compte que, subhanallah, parmi toutes les oumams, parmi toutes les communautés, la seule communauté qui a un livre qui est réellement la parole d'Allah, kalamullah Azza wa Jal, depuis le premier verset jusqu'au dernier verset, authentique, exactement comme Allah Azza wa Jal l'avait révélé à trans et Jibril alayhi salam, qu'on a vu dans les autres versets de At-Takwir, l'a rapporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam en 23 années, et que le prophète alayhi salatu wa sallam durant ces 23 années a fait le tablir, la propagation à la Ummah, c'est exactement les mêmes mots que nous avons la possibilité, mashallah, de lire, de comprendre, de méditer pour pouvoir mettre en pratique. Ce qui nous garantit le sirat al-mustaqim, ce qui nous garantit la vérité, le droit chemin. Il y a des gens, vous savez, quand vous voyagez, voilà, parfois même vous côtoyez des personnes d'autres confessions, ou vous voyez des reportages, d'accord, il y a différentes façons de découvrir son prochain. Idéalement, c'est d'aller les voir, hein, personnellement, pas à travers un écran. Il y a des fois où, encore ce midi, un ami me parlait d'un, allez, on va dire ça, un artisan, quelqu'un qui fait de la peinture, qui fait carrelage, d'accord, m'a dit qu'il n'est pas musulman, il est de telle confession, une autre religion. Il m'a dit qu'il a un comportement exceptionnel. Il m'a dit qu'il a un akhlaq extraordinaire, une gentillesse, une bonté, une honnêteté. Il m'a dit vraiment, c'est quelque chose d'admirable. Et la personne était impressionnée que quelqu'un qui n'a pas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dans son cœur ait un tel comportement. Dans notre entourage, parfois nous côtoyons des gens qui ont une ferveur dans la pratique de la religion, quelles que soient les religions. Quand je parle de religion, c'est autre que l'islam, bien sûr. Des gens d'autres confessions qui ont une ferveur extraordinaire, peut-être plus forte que la nôtre, dans la pratique de la religion. À Sillaos, tout le monde sait c'est au Sillaos, d'accord, quand on était plus petit, on allait en vacances, il y avait une dame, une vieille dame, qui était donc pas loin de la maison familiale, très âgée, elle nous montrait ses genoux, d'accord, elle disait, regardez mes genoux, comment il y a des taches, il y a des boursouflures, il y a un terme plus adapté, ça, un terme médical. Bref, comme nous, on appelle des taches namaz, d'accord, des signes, hein, au niveau du front, au niveau des chevilles, quand quelqu'un se prosterne beaucoup, d'accord, ce n'est pas forcément signe de piété, donc ça, il ne faut pas non plus dire, lui, taches namaz égale pieux, non. Et lui, pas tâche namaz, égale abruti ou pécheur endurci du tout. D'accord ? En parenthèse, j'avais des élèves de 8 ans qui avaient signe de prosternation sur le front. Et je sais bien que si je ne suis pas là, ils ne font pas namaz, ainsi de suite. Parfois, c'est une question de peau aussi. Hein, d'accord ? La peau qui. Donc, c'est pas. Enfin, bref, je ne veux pas non plus désacraliser ce qui est sacré, mais il faut bien se dire que là, si je regarde tout le monde, d'accord ? On ne va pas dire que lui, il est bon, lui, il est mauvais, lui, il est bon, lui, il est mauvais. Vous savez, les choses ne sont pas aussi simples que ça. Vous savez, on n'a pas un code barre qu'on peut lire, lui il y est, lui il n'y est pas. Paradis, enfer, paradis, purgatoire, 2 ans, jahannam. La wallah. Tout ça, c'est dans les mains d'Allah. Et Allah seul sait ce qu'il y a dans les cœurs. Donc, pour revenir à l'histoire de cette vieille dame, elle montrait comment ses genoux étaient tout abîmés parce qu'elle allait tous les matins dans son lieu de culte. Vous savez que dans certaines religions, la prière se fait agenouillée. Donc, elle était fière de montrer comment elle est fervente dans sa prière. Et vu l'âge qu'elle avait il y a très longtemps, elle doit être déjà décédée certainement. Et de la même façon, dans différentes religions, il y a des personnes qui sont assidues à leur culte, assidues à leur pratique, à leur prière. Malgré leur bonne volonté, malgré leur investissement, le temps qu'ils donnent, parfois l'argent qu'ils donnent pour le lieu de culte, malheureusement, on sait qu'ils ne sont pas de le haq. Oui ou non? Ça, c'est le ma'na de qu'il y a ayyuhal kafiroun. La a'budu ma ta'budun. Donc ça, c'est une évidence. Alors que nous, subhanallah, quand on a la ilaha illallah Muhammad Rasulallah dans leur cœur, de notre cœur, et qu'on suit le sirat al-mustaqim, il suffit d'une étincelle de foi. Une étincelle de foi pour qu'Allah Azza wa Jal nous accepte. Voyez une personne qui va faire 50 ans de prière, mais pas les bonnes prières. Il ne va pas invoquer le vrai Allah. Ou alors il va invoquer Allah en lui donnant des attributs qui ne sont pas propres à la divinité, au tawhid. On parle d'autres confessions. Ces 50 ans de prière ne lui apporteront strictement rien. Peut-être qu'il sera honoré de ce dunya, sa récompense sera de ce monde. Mais le jour des comptes, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً هَبَاءً مَنْثُورًا بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ. Ces actions ne pèseront rien du tout, parce qu'ils ne seront d'aucune utilité, parce qu'une action à travers laquelle il n'y a pas l'unicité d'Allah Azza wa Jal et mutaba'a al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam et avant tout le iman, les trois shurut de l'action, la foi, le droit chemin, le fait de suivre la sunna du prophète, cette action n'est pas acceptée par Allah Azza wa Jal. Donc, nous musulmans, en tant que musulmans, il suffit parfois qu'une personne après 20-25 années d'errance, j'allais dire d'erreur, parfois c'est pas d'erreur, c'est d'errance, on erre, on sait plus où on va. Et qu'un jour la personne revient vers Allah avec un tawbatun nasuha, un repentir sincère, pour qu'Allah t'accepte. Pour que les péchés de 25 ans, 50 ans soient entièrement pardonnés par Allah Azza wa Jal. Et qu'Allah t'accepte comme un nouveau-né. C'est possible ou c'est pas possible? Oui, wallah, tout à fait possible. C'est la réalité. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. À part le shirk, Allah Azza wa Jal peut pardonner tous les péchés. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Et pourquoi? Qul ya ibadi alladhina asrafu, ceux en ce sens, mes serviteurs qui ont fait des erreurs, hein, qui ont été dans les péchés, ne désespérez jamais de la clémence, de la miséricorde d'Allah. Pourquoi? Parce que Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Innahu huwa al-ghafur rahim. Parce qu'Allah Azza wa Jal yaghfiru dhunuba jami'a. Allah Azza wa Jal est capable de pardonner tous les péchés. Et quand on dit tous les péchés, les petits péchés comme les grands péchés, sans limite quantitative, sans limite dans le temps. Ça peut être des péchés depuis que j'ai l'âge de 15, depuis que je suis âgé de 15 ans, jusqu'à 60 ans, j'étais dans l'erreur, j'avais pas eu l'éducation islamique. Un jour, je rencontre quelqu'un qui m'explique c'est quoi le tawhid, c'est quoi le din, c'est quoi a'mal saliha, ça veut dire quoi bonne action, ça veut dire quoi péché, j'avais même pas compris c'est quoi la notion de péché. Et que je reviens vers Allah, tawbatun nasuha, et qu'Allah Azza wa Jal peut pardonner toute cette vie de péché. Ne voyez-vous pas le père de Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, Abu Quhafa, Abu Bakr l'avait amené son père voir le prophète pour qu'il embrasse l'islam. Il avait les cheveux tout blancs. Dans certaines sources, on parle de 90 ans, 94 ou 96 ans. Bref, il dépassait 90 ans. Il a accepté l'islam. Et ces 90 années-là, il avait passé dans quoi? Dans le shirk, oui ou non? Il ne faut pas avoir honte de dire, il a passé dans le shirk. D'accord? Comme les Arabes à l'époque, il accepte Shahada. Combien de temps après il est mort? Ça, je n'ai pas vu. Mais 90 années passées dans le mauvais chemin, c'est pardonné par Allah Azza wa Jal. Donc voyez comment Allah Azza wa Jal nous a honoré cette Ummah par des paroles sûres, authentiques, protégées, qui nous mènent vers le droit chemin. Et il suffit, on avait dit ça la dernière fois, il suffit de se mettre sur un des, subhanallah, des milliers de rails des versets du Coran. N'importe quel verset, on va dire, c'est moi qui utilise la métaphore, c'est un rail qui vous amène vers Allah. Quelqu'un s'accroche à un verset, fait un amal, il trouvera le chemin principal. Parce que tous ces versets mènent vers l'adoration d'Allah Azza wa Jal, vers le modèle parfait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam incarné kana khuluquhu al-Qur'an. Donc, mes chers frères, c'est un honneur, une chance, izza qu'Allah Azza wa Jal nous accorde en nous donnant donc le Qur'an. Hada. Donc, on avait vu que, et ceci le Qur'an, non, ceci n'est qu'un rappel pour l'univers. C'est une rahma. Le Qur'an est un rappel, une source également de bénédiction. Ça, on l'a vu la dernière fois. Liman sha'a minkum an yastaqim. Pour celui d'entre vous qui veut suivre le chemin droit. Pour celui d'entre vous qui veut suivre. Le verbe vouloir, ça veut dire qu'on a le choix, qu'on n'a pas le choix. Ça veut dire qu'on a le choix. Et ce verset-là, ça répond à beaucoup de questions concernant le taqdir, le destin. Est-ce que si je fais un péché, on va dire que c'est mon taqdir, c'est mon destin, il n'y avait pas le choix. Je suis devenu un truand, un brigand, un bandit, c'était mon destin. Je suis devenu un savant, un hafid al-Qur'an, un fundi, un grand, mashallah, prêcheur, c'était mon taqdir. Est-ce qu'il n'y a pas une part de volonté de l'homme dedans ? Na'ouzou billah, pensez-vous qu'Allah Azza wa Jal est injuste ? Qu'il décrète que lui il est ok, lui il n'est pas bon, et personne n'a le choix ? Autrement, on va voir le tafsir dans un instant, les ulama disent qu'il n'y aurait pas eu le taklif, il n'y aurait pas eu la possibilité pour l'homme de choisir. Et nous allons voir la notion de choix, on ne va pas parler du destin, c'est un trop grand sujet, mais le fait de vouloir se rapprocher d'Allah. On vient de voir que le Coran est une source de guider, c'est une bénédiction pour Al-Alamin. Mais on peut se dire, oui, mais dans ce cas, pourquoi est-ce qu'Abu Lahab, pourtant, Quraysh, il n'est pas Quraishi, bien sûr, proche, famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, arabe. Il faut le dire clairement, Abu Lahab comprend mieux l'arabe que n'importe quel arabophone ici. Abu Lahab, à son époque, avait une meilleure maîtrise de la langue arabe que n'importe quel professeur ou docteur en langue arabe à notre époque. Parce que c'était l'arabe le plus pur, le plus authentique. Donc son accès au Coran, en termes de vocabulaire, de compréhension, dépassait de loin n'importe quel croyant, n'importe quelle époque, après les grands, subhanallah, les meilleurs des générations, ceux qui maîtrisaient également la langue. On peut se dire comment ça se fait qu'Abu Lahab, comment ça se fait qu'Abu Talib, comment ça se fait qu'Abu Jahl n'ait pas profité de ce qui est normalement un rappel pour Al-Alamin. Parce que ce Coran est un rappel, liman sha'a minkum an yastaqim, pour celui d'entre vous qui veut suivre le chemin droit. Celui dont le cœur est animé de ikhlas, de sincérité. Celui qui cherche le droit chemin. Celui qui recherche le contentement d'Allah. Il trouvera le droit chemin par le biais du Coran. Alors déjà, pour évacuer une catégorie de personnes, pas besoin d'insister, on va être rapide à ce propos. Il y a des gens, on avait parlé la dernière fois des mustashriqin, vous vous rappelez, des personnes qui ont étudié et qui étudient la religion pour mieux la combattre, des gens qui n'ont pas iman, d'accord ? Ben ces gens-là aussi, hein, ils lisent le Coran, ils l'étudient, ils essaient de... J'étais sur un forum l'autre fois, un groupe Facebook, mais c'est vraiment la pire des choses. Ce groupe s'appelle « Du Coran vers la Bible ». Ils essaient de faire croire qu'il y a des gens qui se convertissent il y a des gens qui ont bien étudié le Coran. Mais c'est des commentaires d'un niveau d'islamophobie, mais extraordinaire. Extraordinaire, d'accord ? N'allez pas, ne perdez surtout pas votre temps en lisant ce qu'ils écrivent. Et donc, il y a une personne dedans qui a compilé la plupart des versets qui parlent de guerre sainte. Mais bien sûr, quand il le fait, il enlève les versets de leur contexte. Il ne voit pas c'est quoi avoir une armée de 1000 personnes armées jusqu'aux dents qui vient vous attaquer et qui a l'ordre de défendre femmes et enfants et défendre le din, défendre le iman qu'on essaie de protéger. Bref, hors contexte, pour essayer de dire que voilà, c'est une religion, de guerre, de sang, où il n'y a pas d'amour. Il y a une personne qui a même écrit, ça c'est Ajib, ça, dit que chez les musulmans, Dieu, Allah, a 99 noms. Il y a un nom qui lui manque, c'est l'amour. Na'oudhu billah. Qatalahumullah. Si Allah n'a pas écrit la guidée pour eux. Qatalahumullah. Et Allah, il défend mieux sa religion que quiconque. Et Allah, il sait mieux qui est dans le droit chemin et quel sera le châtiment pour celui qui mérite le châtiment. On a déjà maintes et maintes fois expliqué que le mot amour, c'est trop faible. Amour, c'est un mot de insan, d'être humain. La notion d'amour entre Allah et ses créatures est traduite par un autre terme qui lui s'utilise quasiment jamais pour l'être humain, entre les hommes. Quelles sont ces deux sifats? Rahman, Rahim. Et est-ce que ce ne sont pas là les sifats qu'on lit le plus souvent? À chaque fois qu'on dit Al-Basmala, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman ar-Rahim. Combien de fois on le lit par jour? Dans chaque unité de prière de nos salats. Rahman ar-Rahim, ce n'est pas le lieu. On avait développé ces deux sifats il y a quelque temps, cinq clôtures. On a fait tafsir d'Al-Fatiha. On avait expliqué Rahman, c'est quoi? Rahim, c'est quoi? C'est quoi la clémence, la miséricorde d'Allah Azza wa Jal envers toutes les créatures? Principalement envers ceux qui font son adoration, l'unique, même ceux qui ne font pas le ibad. Ces personnes-là qu'on vient de dire, qui, subhanallah, prononcent des paroles d'une insolence inimaginable envers Allah Rabbul Izzah, est-ce qu'Allah ne continue pas à leur accorder le rizq? Est-ce que c'est pas Allah qui continue à les nourrir? Est-ce qu'Allah ne les accorde pas la vue, lui, la possibilité de respirer, la santé, de gagner leur vie? Est-ce qu'ils n'ont pas femme et enfants? Est-ce qu'ils ne sont pas tranquilles de leur vie? Malgré les erreurs, malgré les paroles profanatoires qu'ils peuvent dire. Ça, c'est également une des sifats d'Allah, as-sabour. Sabour, c'est celui qui est patient, mais pas patient dans le sens de l'être humain, patient face à la désobéissance de ses créatures. Le sifat Rahman Rahim, clémence, miséricordieux, ça dépasse de loin le terme amour. Donc, ça c'était le petit coup de, pas pour dire un gros mot, hein, d'accord, à propos de ce qui a été dit, mais ces personnes-là, ils ont lu le Coran en français. Mais leur but c'était quoi? C'est de trouver, essayer de trouver des failles. Et comme il n'y a pas de failles, ils se perdent eux-mêmes dans les interprétations, hors contexte. Mais est-ce qu'ils ont eu la guidée avec le Coran? Non. Parce que c'est une guidée, c'est une source de bénédiction, c'est un rappel pour l'humanité. Liman sha'a minkum an yastaqim. Je vais vous poser une autre question. Ça va faire mal, hein? On s'assoit bien. Qu'est-ce que l'imam a lu premier rakat? L'histoire de quel homme qui a été attentif? Qui était à l'heure? Moi, je faisais des ablutions, j'ai entendu. Il a récité, c'est une lecture, c'est un verset. Subhanallah, chaque fois que je l'entends, j'entends ça, ça me donne des frissons. Parce qu'il y a un imam de Madinah, Thubayti, Abdul Bari, Thubayti, lorsqu'il lisait ce verset, waouh, c'était exceptionnel. Inna qaruna kana min qawmi Musa, fabara alayhim. L'histoire de Qarun. Qui était Qarun? L'homme le plus riche de cette terre. Toute époque confondue. Ça dépasse Bill Gates. Ça dépasse le roi, comment il s'appelle, le roi asiatique là, qui a une couronne qui vaut, je ne sais pas combien de stades de France là. Burma, pas Burma, là-bas ils sont en train de tuer les musulmans, excusez-moi. Il y a d'autres choses à faire. Comment appelle le pays les riches là? Brunei. Voilà, on a de bons contacts. Sultanat de Brunei, tout ce que vous voulez. Qarun, c'était un déglingo lui. Qarun, c'était le top. Il fallait des caravanes. Et des caravanes pour apporter ses... Ah bon, je crois que vous avez dit ses trésors. Je vais dire, ben non. Ses clés de coffre. Ses clés. Je vous dis que c'était un malade, lui. Lui, il a dépassé tout le monde. En termes de richesse, c'était l'homme le plus riche de cette terre. Il avait iman? Non. Est-ce qu'il a obéi? Il était dans quel umma? Moussa alayhi salam. Est-ce qu'il a obéi à Moussa alayhi salam? Non. Mais pourquoi Allah raconte son histoire alors? C'était un kafir, oui ou non? C'était un tarout, oui ou non? C'était même quelqu'un qui est mutamarrid. C'est quelqu'un qui s'est opposé à Allah Azza wa Jal. Pourquoi est-ce qu'Allah raconte son histoire? Pourquoi est-ce qu'Allah immortalise son histoire du Coran? Ibra. Un rappel. Dars. Une leçon pour tous les croyants jusqu'au Qiyam. Rappelez-vous, ô musulmans, n'oubliez jamais cet homme. Qarun, qui était l'homme le plus comblé de l'univers. Jamais il n'y a eu un homme aussi riche que lui. Il qala lahu qawmuhu la tafrah. Mais il en était fier. Il faisait preuve de fierté, d'orgueil. On ne va pas raconter l'histoire de Qarun. Où est-ce qu'on va en venir? Tout le monde connaît l'histoire de Qarun. Comment il était riche, et il a désobéi à Moussa alayhi salam, et il a été détruit par Allah, et ce sera une des personnes qui aura les châtiments les plus exemplaires, le jour de Qiyama, avec Pharaon, Qarun, Haman, et également les ennemis propres, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Abu Lahab, Abu Jahal, et ainsi de suite. D'accord? C'était les plus grands paroux de ce dunya. Mais il avait une richesse inexplicable. Et pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal cite son histoire de le Coran? Pour que les gens se souviennent de lui et que les gens se rendent compte que le cumul des biens de ce monde, le cumul des richesses, même si ça fait de vous un homme célèbre de ce dunya, ça peut faire de vous le plus grand perdant de l'au-delà. Si la personne n'a pas iman, et si la personne néglige le droit d'Allah Azza wa Jal. Maintenant, ça faisait pas mal. Ce que je veux dire, ça fait mal. Combien de personnes lisent l'histoire de Qarun? Combien de personnes lisent le Coran? Combien de personnes mémorisent le Coran? Et combien de personnes lisent peut-être cette histoire le soir ou l'écoutent dans la salat? Et demain, il va à la banque. Il a besoin d'un prêt pour agrandir son commerce, pour acheter un véhicule qui est mieux que ce qu'il a, ou pour avoir un appartement plus grand. Bref, ou pour faire une piscine de sa maison, dans sa cour, pardon, et ainsi de suite. Pour avoir un peu plus de dunya. Et pour avoir un peu plus de dunya, il va contracter un prêt avec riba, l'intérêt qui est haram, sans ikhtilaf ulama, sans divergence d'opinion. Et qu'on ne vienne pas nous titiller l'esprit, ou nous détourner du droit chemin en disant que l'intérêt pour une maison, c'est autorisé. Abadan. Louer, habiter en location. Location. Yahri, mets 800 euros de ta location et Allah te préserve du châtiment de l'au-delà. Plutôt que d'être propriétaire avec un prêt de 15 ans, je sais pas, 20 ans, tu payes pareil à la banque 800 euros, tu es propriétaire dans 20 ans, tu meurs l'année d'ensuite avec 20 ans de riba. Tu te présentes devant Allah avec 20 ans de riba? Qui est prêt? Qui est prêt à se présenter devant? Qui est prêt le jour de Qiyam à se réveiller? Comme celui qui est possédé par le diable, comme un fou, alors que d'autres seront sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal. Certains seront avec les Anbiya, ma'an Nabiyyin, wa Siddiqin, wa Shuhada, wa Salihin. Et lui, cet imbécile qui avait utilisé riba dans son commerce, dans sa maison, dans son investissement, dans tout ce qu'il fait, il se réveille comme un fou, comme une personne ensorcelée, possédée le jour de Qiyam, parce qu'ils ont osé décréter que ça c'est bien ça. Il n'y a pas de mal, na'oudhu billah. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. Attention, وحل الله البيع. Allah a rendu licite la négoce, la vente, le commerce. وحرم الربا. Et Allah a rendu haram le riba. Donc, combien de personnes mémorisent et lisent, entendent, et ils vont signer des contrats avec la banque et ainsi de suite, où il y a de riba, de l'intérêt. Est-ce que ces personnes ont profité du rappel pour l'humanité? Non. Est-ce qu'ils ont rechercher un yastaqim? Est-ce qu'ils ont recherché le istiqama de le din? Ils ont recherché quoi? Le plaisir de ce dunya. Ils ont recherché le confort. Ils ont recherché, il a un commerce de, je dis n'importe quoi, 20 mètres carrés. Il veut agrandir, il veut avoir 100 mètres carrés pour pouvoir brasser plus de clients, avoir beaucoup plus d'argent. Yahi, de Qarun, un de ses coffres, ça vaut plus que toute ta vie de commerce, de négoce, même si tu deviens Golden Boys, même si tu deviens le plus grand trader, d'accord, et tu gagnes 2 millions d'euros par mois, ça ne vaudrait jamais un coffre de Qarun. Et regarde ce qui est arrivé à Qarun. Donc ça, par rapport à ce que l'imam a lu et par rapport à ce verset, ça nous fait réaliser que le Coran est là. Le même Coran qu'Abu Bakr al-Siddiq lisait Omar Uthman Ali. C'est le même Coran qu'ils utilisaient comme namoudaj, comme exemple pour la vie. C'est ce même Coran que le prophète alayhi salatu wassalam avait pris comme mode de vie, kana khuluquhu wal Coran, qu'il mettait tous en pratique que nous avons. Mais quel est notre rapport avec le Coran? Est-ce que nous devons nous poser la question, est-ce que nous recherchons istiqama ou nous recherchons autre chose? Et accessoirement, on va lire le Coran. Accessoirement, ah, c'est le mois de Ramadan, donc on tient le Coran. Là, on va lire. On va lire, on va lire, on va lire. On va faire 6, 7, 8, 10, 12 khatm le Coran durant le mois. On va lire beaucoup, mashallah. Mais après le Ramadan, khalas, on le range. Et pour les meilleurs d'entre nous, on va continuer à lire régulièrement, mais sans jamais tirer profit des versets. C'est comme si Allah Azza wa Jalla avait révélé le Coran uniquement pour la lecture. Alors que le Coran était révélé pour être lu, ya ikhwan fillah, et pour être mis en poète, pour être tadabbur, fala et tadabbaruna le Coran, pour comprendre et pour mettre en pratique. Je plains ces gens qui s'éloignent du Coran. Je plains ces gens qui considèrent que le tafsir, c'est sans intérêt, que c'est pas nécessaire. Ceux qui disent que le tafsir, il faut laisser pour les grands savants. Ceux qui pensent qu'on n'a pas besoin de ça. On fait quelques petites actions comme ça et c'est amplement suffisant. Tu te déconnectes de la parole d'Allah. Mais tu es malade. Tu as le trésor de l'humanité. Personne n'a eu un tel trésor. La garantie que ce qu'Allah te donne, c'est pour toi et c'est protégé. Taraktufikum. Combien de fois on a lu ce hadith? Demandez, vous allez le mémoriser. Taraktufikum ma intamassaktum bihi lan tadillu abada kitabullahi wa sunnati. Je vous ai laissé ces deux choses, accrochez-vous, ô musulmans. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe, nous donne cet ordre, accrochez-vous, at-tamassuk, c'est accrochez-vous, ne lâchez pas. C'est que le prophète avait fikar, avait souci pour sa umma. Il savait qu'à un moment donné, il y aura ikhtilaf. Et quel genre de problème les sahabes ont connu à l'époque où il y a eu la scission entre Ahlis Sunnah et les Shi'ans, ceux qui sont devenus Shi'ans aujourd'hui, l'apparition des Khawarij, l'apparition des Qadiriyya, l'apparition des Jabariyya, l'apparition des Mu'tazila, l'apparition des Jahmiyya, l'apparition des Subhanallah, de toutes ces sectes qui se sont déviées de l'islam et qui ont porté comme des torrents des gens, des oumams, des peuples, des villages avec eux, de l'Dalala, de ce qui est à l'encontre du Tawhid. Les seules personnes qui restaient fermes dans le droit chemin, dans le Sirat al-Mustaqim, c'était ceux qui s'accrochaient au Coran et à la Sunnah. Et à l'époque, la pire des époques, celle de Dajjal, le grand menteur, celui qui ressuscite tes parents qui sont morts, celui qui ressuscite tes bétails, tes animaux qui sont morts de faim et de soif, celui qui, après 3 années de disette et de sécheresse, claque les doigts, il pleut, et tu vois fruits et légumes qui poussent, tu manges, ta femme mange, tes enfants peuvent enfin manger, tes enfants meurent de faim, Dajjal vient, il claque les doigts, il y a nourriture, il paraît qu'il viendra avec des montagnes de khoubs de pain, c'est-à-dire de la nourriture, quantité. Il faut avoir une force, un iman solide pour dire je préfère laisser femme et enfant mourir de faim et de soif que de suivre Ad-Dajjal. Il faudrait être très fort. Mais même à cette époque, celui qui s'accroche au Coran est sauvé, alors que c'est la plus grande des fitna. Allah nous donne ce guide qui est le Coran et qui nous permet de trouver le haq, le droit chemin. Comment est-ce qu'on peut s'en éloigner? La ilaha illallah. Pour ça également que certains savants disent, on aurait voulu développer un petit peu le terme, le sens d'istiqama et expliquer tellement de choses à dire si on parle d'istiqama. Déjà, il faut savoir que habbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qall. L'action la plus aimée par Allah, celle qui est faite avec constance, même si c'est peu, c'est pas beaucoup. En général, quand on parle d'istiqama, c'est ce qu'on retient. Il faut faire régulièrement, d'accord? Mais faire régulièrement, oui. Mais également faire de manière intelligente. Parce que pour avoir istiqama, il faut comprendre et réaliser qu'est-ce qu'on pratique et pourquoi on le fait. J'avais écrit quelques notes à propos, voilà, j'ai retrouvé la page. Quelques notes à propos d'istiqama, et j'avais complété donc avec mon portable aussi. Il y avait des paroles de certains ulama qui sont vraiment magnifiques. Ils disent que pour le chemin vers l'istiqama, ça commence par l'intention, le niya. Ça commence par l'intention qu'on fait dans le cœur. Parce que si quelqu'un ne souhaite même pas, si quelqu'un ne il ressent pas l'envie d'obéir à Allah, comment voulez-vous qu'il commence à faire des efforts? C'est-à-dire que pour devenir un bon croyant, on va dire que l'objectif final, devenir un bon croyant, là je suis à un point éloigné. Mais il faut que d'abord il y a un talab, une envie qui va naître du cœur. C'est pas que les gens vont t'amener de force de la masjid, tu vas trouver la guidée dans la masjid. Il faut qu'il y ait cette étincelle. Et à partir du moment où l'étincelle, cette envie va naître du cœur, on a déjà un pourcentage de récompense. Car le prophète m'a dit « Innamal a'malu binniyat », les actions ne valent pas leur intention, de un. Et le prophète m'a dit « Man hamma », celui qui donc a l'intention de faire une bonne action, mais qui ne l'accomplit pas, en ce sens, hein, je résume le hadith, Allah Azza wa Jalla ordonne aux anges d'écrire déjà une récompense pour la personne. Et si la personne accomplit l'action, la bonne action, les anges écrivent 10 fois au minimum, et ça peut aller, subhanallah, comme Allah seul le sait, en fonction de la sincérité, ainsi de suite, du contexte dans lequel la personne accomplit la bonne action. Donc, pour que quelqu'un trouve le istiqama, ça doit démarrer du cœur. C'est pour ça qu'il faut demander à Allah Azza wa Jalla de nous donner un cœur pur, un cœur qui recherche son contentement. Parce que dans les versets aussi qu'on va voir, il y a un verset qui parlait de subhanallah. Oui, en tafsir de ce verset, le mufassir explique inna fi dhalika la dhikra, que dans le Coran, en ce sens, il y a un rappel liman kana lahu qalb, pour celui qui a un cœur, ou alqa sam'a wa huwa shahid. Mais après, les savants disent que celui qui a un cœur, mais si ce cœur est bouché. On a vu qu'il y a des gens qui lisent mais qui ne profitent pas du Coran. Mais ce Coran est profitable pour celui qui, on revient vers le verset de base, hein, après on reviendra vers l'exemple de Stéqama, qu'on a vu dans la traduction, pour celui qui veut, qui recherche la droiture, qui veut suivre le chemin droit. Et dans ce second verset, pour celui qui a un cœur, c'est-à-dire un cœur qui est attentif, un cœur qui est réceptif. Maintenant, si ce cœur-là, il est bouché, comment voulez-vous que le cœur va profiter du Coran? Dites-moi, qu'est-ce qui bouche un cœur? Qu'est-ce qui noircit le cœur? Les péchés. On avait expliqué il y a quelque temps dans d'autres versets, celui qui accomplit un péché, un point noir sur le cœur. Il demande pardon, le péché est effacé, Inch'Allah. Il ne demande pas pardon, le point noir reste. Et s'il refait un autre péché, un deuxième point noir, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le cœur devienne noir, obscur, volumant. Et quand le cœur est rempli de points noirs, le cœur est noir, le cœur n'est plus réceptif. Écoutez ce que vous voulez. Écoutez le Coran, le grand Qari. Allez devant la Kaaba si vous voulez. Faites, le cœur est noir. Ça ne rentre pas. C'est comme si vous avez mis du papier, du film plastique, vous avez des trucs imperméables. Vous pouvez mettre de l'eau, arroser, ça ne passe pas. Je me demande si ce n'est pas notre cas, nous, de nos jours. Avec le cumul des péchés, qu'est-ce qui fait qu'on n'avance pas dans le din? Qu'est-ce qui fait que les sahaba, jour après jour, ils avançaient dans le cheminement vers Allah? Nous, notre problème, c'est que on ne savait même pas qu'il fallait avancer. C'est vrai, ça? On a l'impression qu'on a la ilaha illallah, salat, zakat, je paye, j'ai l'argent, ramadan, je jeûne, hajj, je fais une fois dans ma vie, et ainsi de suite. Bas, c'est bon. On ne pense même pas qu'on a besoin, jour après jour, de progresser dans la foi, progresser dans le iman, progresser dans la quantité des bonnes actions, dans la qualité des bonnes actions. C'est ce qui fait la grande différence avec les sahabes. C'est ce qui fait la différence de notre relation avec Allah, nous, au 21e siècle, et la relation que les sahabes avaient avec leur Seigneur Allah Rabbul Izzah. Donc, si ce cœur est bouché, si jour après jour on cumule des péchés, c'est normal que le Coran ne pèse pas, ne pénètre pas nos cœurs. Il faut commencer par un tawbatun nasuha. Donc, pour avoir istiqama, pour que le cœur ait envie de se rapprocher d'Allah, pour que la lumière naisse du cœur, s'il est bouché, ça ne viendra pas. S'il est déjà carbonisé, il est sec, il ne pourra rien obtenir. Il faut d'abord faire un travail sur soi, essayer de voir les péchés, essayer de casser. C'est comme si il y a de la rouille, où il y a des trucs, il faut casser, il faut enlever tout ce qu'il y a de ça. Donc, tout démarre du cœur. Et pour cela, il faut demander à Allah tawfiq, d'avoir un cœur salim et d'avoir un cœur qui nous mène, qui nous donne talab, l'envie d'aller vers le droit chemin. Et deuxièmement, les efforts à faire. Et les efforts, vous savez mes chers frères, Allah est tellement clément, tellement miséricordieux. Et on va voir dans la suite des tafsirs la prochaine fois, comment ce Coran est ce din même est une miséricorde pour la Ummah. On a vu l'exemple de celui qui a fait des péchés toute sa vie et qui revient vers Allah. Et on a oublié de compléter le hadith. C'est comme celui qui a perdu sa monture dans le désert, qui a pu à manger, qui a pu à boire et qui va mourir au soleil, déshydraté ou de faim ou de soif, ou dévoré par les bêtes sauvages, et qui s'assoit sous un arbre et qui attend la mort. Et quelques instants après, il voit son chameau qui revient. Il est tellement content. Il perd ses mots, il ne sait plus quoi dire. Il est tellement content, il remercie Allah, il dit « Oh Allah !» Et qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ?« Oh Allah, tu es mon serviteur, je suis ton Seigneur, je te remercie. » C'est-à-dire, tellement, les termes du hadith, c'est tellement profond que la personne, il en perd presque la tête, devenir fou de joie presque. Et Allah, la conclusion du hadith, c'est quoi ? Allah est encore plus content de retrouver son serviteur qui s'est éloigné de lui et qui enfin revient vers lui. Plus content que cet homme qui pensait qu'il allait mourir et qui retrouve sa monture, c'est comme une seconde vie. Est-ce que vous imaginez ça ? La clémence d'Allah, comment Allah Rabbul Izza aime ses serviteurs. Ça ne dépasse pas la notion d'amour, ça, mes chers frères ? Ça, c'est Rahman et ça, c'est Rahim. Donc, on avait vu cet exemple de la clémence d'Allah Azza wa Jal dans cette religion. Et nous voyons aussi là qu'on parle d'effort. Ce hadith de base que nous devons vraiment, ça fait partie des hadiths que chaque croyant doit mémoriser. Que celui qui s'approche d'Allah d'un empan, Allah s'approche de lui d'une coudée et ainsi de suite. Celui qui fait un pas vers Allah, Allah fait deux pas vers lui. Il y a quoi ? Ça veut dire que tout va démarrer, mais il est là de l'effort qu'on va faire. Parce que il y a bien eu au début celui qui s'approche de là d'un empan, une distance de, on va dire, d'une dizaine de centimètres. C'est-à-dire qu'il fallait le faire ça déjà. Si tu ne le fais pas, il n'y a pas de suite. Donc la bonne intention, le niya, et ensuite commencer, mujahada, faire l'effort. Si on attend sur notre lit, comme ça, istiqama, on attend de devenir un musulman pieux, ça ne viendra pas. Hein. La révélation, le wahi est terminé. Hein. On va pas recevoir l'ange Jibril dans la chambre qui va venir te dire que voilà, tu es un homme pieux maintenant, Allah t'a accepté. Dis, all right, it's okay now, Jibril, I come with you. C'est pas comme ça que ça se passe. Si on ne se bouge pas, tout commence par les obligations. Le hadith Qudsi qui dit qu'il n'y a rien qui rapproche plus la vie d'Allah que les choses qu'Allah a rendues obligatoires. J'ai des manquements dans ma vie, mais je vais commencer par mes 5 prières. Je vais commencer par me casser demain. Demain, c'est samedi. Je suis fonctionnaire, normal, grand fonctionnaire. D'accord ? Les gens sont fonctionnaires, disent je ne travaille pas le samedi. Ils se disent que je ne prie pas le samedi. Non ? Demain, je ne travaille pas. Ok, dimanche, je ne travaille pas. Mais je me débrouille. Je règle mon réveil pour. Ah bon, c'est tout ? Qiyamul Layl. Qu'Allah me donne tawfiq à moi aussi de le faire. Qiyamul Layl. Je veux me rapprocher d'Allah. Bouge-toi, mon frère. Bouge-toi. Et fais des efforts. Celui qui a. Qui a pas de boulot depuis 5 ans. Enfin, il a un entretien d'embauche, je sais pas quel endroit, d'accord ? L'entretien, c'est à 7 heures. C'est à Saint-Pierre. Quand on est gentil, la réunion, ça va, hein, une heure de temps, on est n'importe où, s'il n'y a pas de problème, d'accord ? L'entretien est à Saint-Pierre, d'accord ? 7 heures, le patron, il vous reçoit pour l'entretien. Il y a 30 candidats. Vous êtes le premier à passer, d'accord ? Vous allez vous réveiller à 7h24, vous lève 10 heures. Dites, patron, ben, monsieur, désolé, mais allez, un peu en retard, hein, il arrive, hein, regarde le match hier soir, Real Barça, donc, voilà, il arrive, hein, mais franchement, le triplé de Messi, top. Ça marche ? Ça marche pas. Tu veux Natija ? Tu veux un résultat ? Tu te bouges. Pour le dunya, on se bouge, oui ou non ? On se bouge. Quelqu'un veut se rapprocher de là ? Vous voulez quoi, là ? Vous voulez le Jannah ? Est-ce que c'est, s'il y a un prix, ça ? Est-ce que c'est côté en bois, ce mètre carré du paradis ? Ça, on peut même pas décrire, il n'y a pas de mots. L'équivalent d'une brindille de le Jannah, c'est plus que ce monde et tout ce qu'il contient. Bon, pour avoir ça, est-ce qu'il n'y a pas nécessité de faire des efforts ? Bien sûr que oui. Donc je commence par Qiyamul Layl. Ça, ce sera, je fais un effort vers Allah. Je me rapproche d'Allah d'un empan. Et Allah, Rabbul Izzah, te donnera istiqama, te donnera, en fonction de tes efforts, hein, la possibilité de faire encore d'autres choses, encore d'autres bonnes actions. Et les savants disent, on va conclure avec ça, le signe de Kaboul, le signe d'acceptation d'une bonne action, c'est quand Allah te choisit pour faire une autre bonne action. Quand tu as fait une bonne œuvre et qu'ensuite tu as la possibilité d'enchaîner, d'en faire encore, c'est qu'Allah t'a accepté. Quand quelqu'un a passé un mois de Ramadan ou quelqu'un est revenu du Hajj pour savoir si ça a été accepté par Allah, vous voyez comment est-ce que je me comporte après l'événement. Si je vois qu'après le Ramadan, je continue à faire telle bonne action que je faisais durant le mois sacré, ça veut dire qu'Allah m'a accepté. C'est dalil, signe de Kaboul. Ça, c'est le plus grand ni'ma de la part d'Allah qu'un homme peut recevoir, que d'être accepté, qu'une de ses actions est acceptée par Allah Azza wa Jalla. Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu disait que si je savais qu'Allah Azza wa Jalla avait accepté le shuresh, qu'une prosternation, de ma vie de a'mal, je serai satisfait. Qui parle ? Umar, deuxième calife de l'islam. Si je savais qu'Allah avait accepté ne serait-ce qu'un sijda de ma vie, une prosternation, je serais reconnaissant vers Allah Azza wa Jal. Donc, les savants disent, ça démarre par la bonne intention, il faut faire un travail sur le cœur, dérouiller un peu tout ça. On ne pourra pas se rapprocher d'Allah si on continue l'intérêt, si on continue la musique, si on continue à fréquenter des filles haram, si on continue à faire la bise à ses collègues de bureau, si on continue à manquer de respect aux plus âgés, aux parents, et ainsi de suite. Si on continue à faire des erreurs, des bêtises, tant qu'on continue les péchés, on ne pourra pas avoir une vie d'istiqama, ce n'est pas possible. On ne pourra pas devenir de bons croyants. Donc ça commence par le cœur, travailler le cœur, essayer de dérouiller tout ça, qu'on essaie de faire naître en nous l'envie de nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Et ensuite, il y aura les efforts, ou simultanément, les efforts. Et quand on fait un effort avec sincérité, Allah Azza wa Jal va nous accepter, et ainsi de suite, il y aura un cheminement vers Allah Azza wa Jal. Et ce qui est encore, ce qui est magnifique aussi dans notre dîn, la rahma qu'il y a dans notre dîn, c'est que pour se rapprocher d'Allah, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de temps. Comme on l'a vu, cette personne, 90 ans, il demande tawba, Allah l'accepte. Il n'y a pas besoin d'un cursus. Il n'y a pas besoin d'un cursus. Il n'y a pas besoin de 7 ou 8 années d'études, validation des acquis, tous ces tralala. Ça, c'est pas dunia, ça. Il n'y a pas besoin de 50 ans d'expérience ou stage, telle entreprise. Non, tu veux te rapprocher d'Allah, il y a des choses à faire. Et Allah t'accepte, que tu sois blanc, noir, arabe, non-arabe, grande famille, petite famille, connu, inconnu, RMiste ou PDG. Tu te rapproches d'Allah si ton cœur est pur et sincère et tu fais des efforts. Tout ça, ça fait que notre dîn, mes chers frères, est magnifique. C'est une religion du juste milieu, c'est la religion parfaite, c'est une religion remplie de insaniya, d'humanisme, parce qu'elle était révélée pour les hommes. Et celui qui la suit comme il le faut, trouvera l'équilibre dans sa vie mondaine et la réussite de l'au-delà, l'équilibre psychologique, et il sera quelqu'un rempli de justice et de adl envers les autres. Parce qu'il aura, en plus de faire les bonnes œuvres, il incarnera le akhlaq, le bon comportement. Donc tout ça, ça nous ramène, on n'a pas pu continuer, on n'a pas pu avancer trop, mais tout ça, ça nous ramène vers le Coran qui est une source de bénédiction. Conclusion à laquelle on s'était arrêté la dernière fois, ce qu'on a pu faire un petit peu plus aujourd'hui, c'est comprendre que oui, source de bénédiction, mais à condition qu'on ait envie de trouver le droit chemin. Celui qui cherche, celui qui fait des efforts pour trouver la droiture. Et je voulais conclure par une petite note, donc on avait en dernier lieu inscrit une parole magnifique de l'ulama aussi, disent que pour que quelqu'un reste ou trouve le droit chemin, son istiqama ne pourra être vraiment stable s'il n'a pas un lien permanent avec le Coran. Il y a des gens, mashallah, pendant certaines périodes, nous on appelle ça un petit peu temps chaud. Quand on dit temps chaud, le gars il défonce les masjids 5 fois par jour, premier saf, Coran, dhikrullah, tac tac, le gars on a dit que c'est bon, il est parti là. Il bat les yeux, trouve plus lit, pouc, disparu. Tu le retrouves là-bas, si côté machin, dit ah fatigué là, mosquée, viens, m'a fait beaucoup et tout et tout. On ne se moque pas, il a essayé, il a fait tout ce qu'il a pu. On connaît tous quelqu'un comme ça. Peut-être que c'était notre cas aussi avant et qu'Allah nous permet de rester dans le droit chemin. Des gens qui tout d'un coup, ils font plein de bonnes choses et puis ils disparaissent. Ils avaient la bonne intention, mais ils ne comprenaient pas les tenants et les aboutissants. Pourquoi ? C'est peut-être une période creuse de sa vie, il a essayé de trouver quelque chose dans la religion, il l'a trouvé, mais il n'a pas compris réellement c'est quoi le but final. C'est pas juste que tu t'en sors d'une période difficile et quand ça va mieux. Par exemple, quelqu'un est en rupture dans son couple ou problème financier ou ainsi de suite, il s'accroche à la religion, il trouve l'aide, il a demandé de il a fait des bonnes œuvres, tout va bien et puis bon, il reprend sa vie normale. C'est pas un stage la mosquée, c'est pas un lieu de passage, c'est pas un centre de formation ou c'est pas un recueil de sans-abri ou de sans-situation ou de personnes en détresse. Oui, c'est le cas, mais de façon permanente. Pas que ça va mieux, j'ai demandé droit, maintenant j'ai eu un autre boulot, c'est bon, je repars, je reprends mon envol, merci imam, top. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc, celui qui, et pour comprendre le réel, le sens réel du ibada, at-tadallul wal khudu', la soumission vers Allah, comprendre la relation entre les œuvres, leur aboutissement et l'objectif final, tout ça, ça passe par le message du Coran. Tout se trouve dans le Coran, tout se trouve dans les paroles. Donc, si quelqu'un n'a pas un contact réel avec la parole d'Allah, la parole du Prophète, il va faire de bonnes choses, mais la personne restera fragile. La personne restera sensible aux influences extérieures,
ou des problèmes qui vont remettre en doute sa foi. Il est dans le droit chemin, bien comme il le faut, il lui arrive un grand malheur. Musiba, accident ou problème de santé grave. Et il se dit, ah non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, 25 ans, mis en boîte de nuit, 25 ans, je faisais zina, je buvais de l'alcool, j'ai jamais eu de problème. Bonne santé, mes analyses de sang, c'est parfait. Le docteur dit, tu as un cœur de 20 ans, impeccable, excellent. Et là, depuis 2 ans, je vais à la mosquée, je m'investis dans la religion. Mais un cancer, c'est quoi ce din, c'est quoi, ça sert à quoi tout ce que j'ai fait là? C'est-à-dire, un ibtila le déstabilise. Alors que l'ibtila, l'épreuve doit faire décoller le croyant. Il lui donne l'accès presque garanti au Jannah. Alors que lui, l'ibtila, au lieu de faire décoller, ça l'a assommé et ça l'a éloigné. Parce qu'il n'a pas compris les tenants et les aboutissants, comment ça fonctionne le din, comment est-ce qu'Allah agit envers ses créatures. Et tout ça, c'est-à-dire la compréhension saine, globale de la religion. Pas une compréhension traditionnelle. Papa l'a fait, Dada l'a fait, Fundi l'a fait, on le fait. Non, non, non. Pas comme on fait comme tout le monde. On fait comme tout le monde, mais le Fundi ou le tonton ou le papa, le Moulissab ou ainsi de suite, il lui est pas arrivé tel malheur dans sa vie. Donc il ne sait pas comment réagir par rapport à ça. Mais dans le Coran, tu as le message. Bonne nouvelle. Ah bon? Quelqu'un qui est éprouvé par la mort, par la maladie, par la perte de ses biens, la perte de ses proches, et où vient d'y aller encore? Bonne nouvelle. Tu ne comprends plus là. C'est pas qu'on réconforte, non. Bashir, bichara, wa bashir sabirin. Bonne nouvelle à ses patients. Quand il arrive un malheur, الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا الله 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 قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. De toute façon, on appartient à Allah. Et à eux les plus grandes récompenses, ainsi de suite. Vous voyez comment une épreuve normalement peut faire décoller un croyant, mais celui qui n'a pas la compréhension globale de la religion à partir des textes, il peut s'effondrer à n'importe quel coin de rue. Donc pratique, oui, piété, oui, comme il faut, assiduité dans les bonnes œuvres, mais avec un contact permanent avec la source qui est le Coran. On va s'arrêter à la prochaine fois, Inch'Allah. On a même dépassé un petit peu le temps, excusez-moi, 47 minutes. Mais vous savez, quand on parle de istiqama, il y a tellement de choses, il y a plein de choses qu'on n'a pas pu dire non plus. Mais bon, on complétera, Inch'Allah, la prochaine fois. Alhamdulillah, la semaine dernière, on voulait bâcler un petit peu, terminer pour commencer. Ensuite, Allah nous a donné la hidayah de dire non, de mettre dans notre cœur, qu'on va essayer de travailler un peu l'iman shah, amin kumayi istaqim. Et on se rend compte que ça, c'est un sujet capital. Ça nous permet de travailler notre relation avec le Coran et de nous réveiller un petit peu pour comprendre qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal attend de nous. Tawfiq illa billah. Je crois que semaine prochaine, il y a Nika ici, si je ne me trompe pas. C'est un de nos collègues qui se marie. Vendredi 4, effectivement, Nika aura lieu à la masjid de Latanier. Donc vendredi 4, on assiste au Nika. Donc on ne fera pas de programme. Et donc on se retrouve, Inch'Allah, le vendredi 11 avril. Wa man tawfiq illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah.